Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Merci de votre fidélité. Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger. Guillaume Roquette du Figaro, bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de TF1 LCI, bonjour Adrien. Dans la question en plus, ce sera Claude Rambaud, vice-présidente de France Asso Santé, qui vous interpellera à propos du mois sans alcool. Et bien sûr, question nette en fin d'émission, tous vos commentaires, vos questions à la ministre en direct, hashtag Le Grand Jury. Et Marie-Pierre Haddad nous rejoindra pour les poser en fin d'émission à la ministre. Alors Elisabeth Borne, après les gilets jaunes l'an passé, on pensait que le quinquennat d'Emmanuel Macron venait de connaître sa crise la plus vive, la plus cathartique. Peut-être pas, finalement, car le début de la mobilisation sociale contre la réforme des retraites est la preuve qu'un bras de fer est engagé et que nul ne connaît sa durée, son intensité et sa popularité sur le long terme. À ce jour, le mouvement est soutenu par les Français, si on en croit les sondages. Alors avez-vous perdu la bataille de l'opinion? Vous nous le direz. En tant que ministre en charge des transports, vous êtes aussi en première ligne pour gérer une situation de blocage inédite depuis 1995, une année qui reste un traumatisme pour tous les gouvernements, pour vous aussi on imagine, vous nous le direz. Et dans cette ambiance électrique, l'écologie dont vous avez la charge semble à nouveau bien loin des préoccupations, celles de votre gouvernement notamment. Emmanuel Macron a ainsi brillé par son absence à la COP25 qui se déroule en ce moment à Madrid et où vous serez vous-même demain. Nous en parlerons dans la seconde partie de cette émission. Mais nous commençons tout de suite bien par le quotidien des Français, par ce blocage qui va se poursuivre. La première question vous est posée par Guillaume Roquette.
La SNCF et la RATP font état d'un fort risque de saturation du réseau demain. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque? Est-ce que les Français seront en sécurité demain en allant à la gare ou dans leur station de métro?
Donc, le mouvement se continue demain avec donc, du coup, des très fortes perturbations. Et effectivement, la SNCF a alerté sur le fait qu'on peut craindre une forte affluence dans les gares. C'est la même chose dans les stations de métro. Donc elle appelle tous ceux qui le peuvent à reporter leurs déplacements parce qu'évidemment, notre première préoccupation, c'est la sécurité des voyageurs. Et c'est donc pour ça qu'on est très mobilisés pour proposer des solutions alternatives. C'est d'abord tous ceux qui le peuvent, peuvent télétravailler. Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis, on a développé du covoiturage. Vous savez que la semaine dernière, on était à 75% de trajets de plus en covoiturage que ce qu'on a habituellement.
Mais, ministre, pardon, soyons très concrets, quand on dit qu'on est inquiet, ça veut dire que potentiellement demain des voyageurs seront blessés en voulant aller prendre leur train parce qu'il y aura trop d'affluence pour monter dans les voitures?
Évidemment, c'est la première préoccupation, je le redis, la sécurité des voyageurs. Et donc on a des agents de la RATP, de la SNCF qui sont présents dans les gares pour éviter les bousculades. Et c'est pour ça aussi qu'on invite tous ceux qui le peuvent à ne pas prendre le train ou le métro. Donc je le redis, tous ceux qui peuvent éviter de se déplacer sont invités à le faire.
Mais vous n'envisagez pas, par exemple, de fermer purement et simplement des gares pour éviter ce type de scénario?
Le trafic, donc il est assuré à l'heure de pointe avec une offre qui est grosso modo de 1 sur 2 sur le RER A et 1 sur 3 sur certaines lignes de métro. Mais il faut effectivement apprécier en fonction de l'affluence. Le premier sujet, c'est la sécurité des voyageurs. Donc c'est ce à quoi les équipes de la SNCF et de la RATP seront très attentives demain.
Mais globalement, le trafic sera de quel ordre pour demain en pourcentage? Est-ce que ce sera 10, 15% du trafic habituel sur la SNCF?
Donc la RATP et la SNCF communiqueront dans l'après-midi sur les prévisions de trafic pour demain. On ne peut pas s'attendre à une situation très différente de celle qu'on a connue vendredi. On est donc à un trafic très réduit et surtout concentré aux heures de pointe pour permettre aux gens d'aller travailler avec un trafic un peu plus important sur les bus en surface puisqu'on est un peu au-dessus de 1 sur 2.
Mais c'est-à-dire que la situation pourrait être pire que celle que les Français viennent de connaître, notamment les Franciliens, celle qu'ils viennent de connaître ces derniers jours? Ça peut être pire?
La situation n'est pas pire. Je suis en train de vous dire qu'elle est à peu près celle de vendredi dernier. Mais simplement, on peut effectivement penser que ceux qui avaient pu éviter de se déplacer jeudi, vous avez vu qu'il y avait très peu de monde, et vendredi, ont besoin d'aller travailler. C'est pour ça que la SNCF en particulier a alerté sur les risques qu'il y ait une trop grande affluence dans les gares. Il y a évidemment des agents de la SNCF qui seront présents sur le site pour éviter qu'il y ait effectivement
mettre en danger des voyageurs. Donc vous dites aux Français de rester chez eux, s'ils le peuvent.
Je dis qu'évidemment, je suis bien consciente que les gens ont besoin de se déplacer, mais que ceux qui peuvent ne pas se déplacer lundi sont invités à le faire.
Et si ça dure encore 1, 2, 3, 4 jours, voire plusieurs semaines, est-ce qu'à un moment, ce n'est pas le rôle de l'État de faire en sorte que ces transports puissent avoir lieu? Parce que vous demandez aux gens qu'ils peuvent de rester chez eux, d'être en télétravail, mais ça ne va pas pouvoir se prolonger éternellement. Quelle solution vous allez pouvoir proposer aux Français?
D'abord, je le redis, on a proposé... Tout le monde s'est mobilisé pour avoir des offres alternatives, les taxis, les VTC, le covoiturage, une augmentation de 75% des trajets en covoiturage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas assez de conducteurs. Donc, je rappelle qu'en Ile-de-France, c'est gratuit pour le passager et il y a un bonus de 3 euros pour chaque conducteur. Donc, tous ceux qui ont une voiture, s'ils peuvent emmener quelqu'un, ça sera le bienvenu.
Augmentation de 75%, vous me dites, de covoiturage.
Augmentation de 75% des trajets en covoiturage. Et je pense qu'on peut faire davantage.
Alors, comment
et c'est aussi pour ça que je vous annonce que demain, on ouvrira les voies réservées sur les grands axes qui arrivent sur Paris au covoiturage pour les voitures où il y a plus de 3 passagers.
Oui, il faut préciser que le covoiturage, c'est pour les gens qui ont l'application qui leur permet d'avoir ce système-là, parce que c'est pas, ça ne s'organise pas comme ça sur un parking.
Vous pouvez charger votre application, je pense que chacun peut le faire. Il doit y avoir au moins 5 plateformes référencées en Ile-de-France. Donc tout le monde peut charger une application de covoiturage. Pour le passager, c'est gratuit et c'est 3 euros pour remercier les conducteurs qui veulent bien faire du covoiturage. Pardon ? La région Île-de-France donne 3 euros à chaque conducteur qui fait du covoiturage.
Et pour bien comprendre ce que vous disiez sur les voies réservées, c'est-à-dire que demain, il y aura sur les autoroutes d'Île-de-France une voie dédiée à ces voitures.
Ça veut dire que les voies réservées habituellement aux transports en commun et aux taxis seront ouvertes aux voitures où il y a plus de 3 passagers.
Et ce sera le cas également à Paris ?
Non, dans Paris, il y a des voies de bus, mais comme je le disais, on est à plus de 50% du service normal de bus qui est assuré, donc il faut laisser les bus circuler dans les voies de bus.
Est-ce que vous pourriez augmenter la contribution de l'État pour encourager le covoiturage? Vous disiez 3 euros de la part de la région. Est-ce que vous allez faire un effort supplémentaire pour encourager ceux qui ont une voiture à proposer du covoiturage?
Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet. Quand vous avez 3 euros pour être conducteur en covoiturage, je pense que c'est une bonne incitation. Le sujet, c'est que les gens aillent sur les plateformes et quand ils le peuvent proposent des trajets en covoiturage.
Et plus globalement, selon vos estimations, quelle est la part des gens qui prendraient habituellement le train qui peuvent utiliser le covoiturage ou les bus de substitution?
Les différentes offres qui avaient été mises en place vendredi et dont j'espère qu'elles vont se développer lundi, c'est à peu près 500 000 voyages, ce qui représente de l'ordre de 10% de l'offre. C'est une ligne de métro, par exemple.
Donc ça veut dire qu'il y a 90% des gens qui sont quand même bloqués.
Effectivement, je vous confirme que la situation est très dégradée. Et donc l'objectif, c'est évidemment pas que cette grève dure. Il faut que la discussion se poursuive avec les organisations syndicales pour qu'on trouve un chemin. Vous savez, la grève, c'est jamais une bonne solution. C'est pénalisant, évidemment, pour les usagers, on vient d'en parler, mais c'est aussi pénalisant pour les salariés. Donc moi, je suis sûr que les agents des deux entreprises, notamment de la RATP, que je connais bien, ne font pas grève par plaisir. Ils expriment des inquiétudes. Ils expriment des inquiétudes. Et donc, c'est bien tout l'enjeu du chemin qu'on doit trouver sur la mise en œuvre de cette réforme des retraites, mais sans brutalité. Et donc, il faut pouvoir en parler avec les organisations syndicales.
Alors, on va y venir, toujours sur les méthodes alternatives.
Il y a une tentative la semaine dernière d'organiser des transports alternatifs avec les cars Macron, la société Flixbus en particulier. Ça ne s'est pas révélé très performant, sauf à ce que vous nous disiez le contraire aujourd'hui. Est-ce que c'est une autre voie pour permettre aux Franciliens ou aux Français de se déplacer?
Ce que je peux vous dire, c'est que les cars Macron, comme vous dites, ont augmenté leur offre de 15 à 20%, mais surtout sur les liaisons entre grandes villes. Mmh. Et donc, du coup, c'est une bonne réponse. Dans Paris, on est maintenant à plus de 50% du trafic bus assuré, donc c'est moins le sujet de faire circuler ces cars dans Paris. En tout cas, entre les grandes villes, ils apportent une réponse avec 15 à 20% d'offres
supplémentaires. Donc il y a nécessité d'aller plus loin.
Sur les liaisons entre les grandes villes, c'est une bonne chose. Dans Paris, l'offre de bus s'est nettement améliorée et donc je pense que c'est la meilleure réponse.
Mais vous allez en mettre davantage dans des cars Macron, là, entre villes en région ou pas?
Alors, ce n'est pas nous qui mettons les cars Macron, ce sont ce qu'on appelle des services librement organisés, donc c'est des entreprises, notamment BlaBlaCar et Flixbus qui font ces offres. Ils voient bien qu'il y a une demande, donc ils répondent à la demande. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la disponibilité des cars qui est en question. Et donc, ils ont augmenté leur offre. Je peux vous assurer que s'ils peuvent le faire davantage, s'ils trouvent des cars, je n'ai pas de doute qu'ils continueront
Sauf
à l'augmenter.
Que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous aviez mis sur Flixbus 40
Ça a très bien fonctionné. Entre les grandes villes, ça fonctionne très bien dans les grandes villes.
D'accord, mais ça n'a pas fonctionné à Paris. Alors sur la compensation, Guillaume Roquette.
Oui, du côté des voyageurs, est-ce que vous allez demander à la RATP, à la SNCF, des gestes commerciaux, des remboursements d'abonnements, compte tenu de ces blocages qui ont l'air de devoir durer?
Enfin, sur la SNCF, sur les billets, il n'y a pas d'ambiguïté.
Les billets sont remboursés.
Les billets sont remboursés. On a ensuite la situation des gens qui ont un abonnement. Mmh. À chaque fois qu'on a des perturbations importantes, et c'est bien le cas actuellement, évidemment, il y a des remises des remboursements sur les abonnements.
Pour la RATP, certains s'étonnent que les lignes qui restent ouvertes, les lignes automatiques, sont encore payantes, alors même que le service est quand même très dégradé globalement. Ça vous paraît normal ?
Enfin, je ne sais pas si c'est la principale préoccupation des Français. Il y a des touristes qui sont là, qui bénéficient des lignes, et les autres, la plupart, ont des abonnements. Donc ça renvoie à la question précédente sur le remboursement des abonnements.
Vous nous disiez, et vous n'êtes pas la seule, que ce mouvement, on ne sait pas exactement quand il va se terminer. Pour le moment, la grève se poursuit, vous préparez des solutions alternatives, mais on a quand même une interrogation sur la capacité des cheminots à tenir dans la durée. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont pouvoir ou pas poursuivre la grève, même financièrement à titre individuel, j'ai envie de vous dire, jusqu'où vous estimez qu'il puisse aller ?
Enfin, attendez, moi, je ne vais pas faire des pronostics sur jusqu'où les cheminots sont prêts à sacrifier de la rémunération. Et je vous dis que je ne me place pas dans l'idée d'un conflit qui devrait durer. Je pense que c'est bien le sens des annonces qui doivent être faites par le Premier ministre mercredi prochain pour clarifier le contenu et surtout le rythme de mise en œuvre de la réforme des retraites. Et je vous dis, je pense qu'il est important, et c'est bien ce que font les présidents des deux entreprises, de continuer les discussions avec les syndicats pour qu'on puisse rassurer les salariés sur la façon dont cette réforme
mais
va se mettre en
œuvre. Mais vous nous dites qu'il n'y aura pas de paiement des jours de grève.
Ah non, mais ça, il n'y a jamais de paiement des jours de grève. Il n'y a pas de doute.
Mais c'est-à-dire que vous nous dites que la mobilisation, pour vous, elle pourrait s'arrêter à partir de mercredi soir? C'est un peu votre pronostic? Ou vous pensez que ça peut encore durer, si on est réaliste, jusqu'à la semaine prochaine?
Ce que je vous dis, c'est que le Premier ministre présentera mercredi, comme il l'a dit, le contenu de la réforme, avec notamment un sujet qui est important pour les entreprises dont on vient de parler, qui est le rythme, la transition. C'est pas la même chose si vous venez de rentrer à la RATP. Vous savez, moi, les jeunes recrutés à la RATP, ils ne me parlaient pas fondamentalement de leur retraite. Ils parlaient de leurs conditions de travail, de leur déroulement de carrière. Donc, si vous venez d'entrer à la RATP ou si vous êtes à quelques années de la retraite, le problème n'est pas le même. Et évidemment, il faut qu'on en tienne compte dans les transitions. Si vous êtes à quelques années de la retraite, on ne va pas dire à un agent qui a fait un choix de vie avec des contraintes de prendre son service tôt le matin, de travailler le dimanche, qui peut-être habite loin parce qu'il a voulu acheter une maison et qui compte sur la retraite qu'on lui a promise, on ne va pas lui dire du jour au lendemain qu'on va tout changer. Donc c'est ces curseurs-là qui doivent être précisés la semaine prochaine.
Avant de venir sur le fond de la retraite, deux choses. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le coût à ce jour pour la SNCF que ces jours de grève? Quel est le...
Non, je ne suis pas en situation de vous le dire. Je pense que l'entreprise communiquera sur ses coûts. Premier sujet, c'est la gêne qui est occasionnée pour les Français. Moi, c'est ma
principale
préoccupation.
Et pour l'économie française, est-ce que vous pouvez penser que ça...
Évidemment, ça n'est pas bon pour l'économie française. C'est pénalisant pour les Français. Et donc, voilà, l'objectif n'est pas de s'installer dans une grève qui dure.
Alors, ce soir, réunion à l'Élysée autour du président Emmanuel Macron. On a l'impression, on sent qu'il y a une accélération du rythme de prise en considération de cette mobilisation par le gouvernement, comme si vous n'aviez pas anticipé ce qui se passe, Elisabeth Borne. Comment se fait-il que vous n'ayez pas anticipé? On a du coup le sentiment d'une fébrilité.
Moi, j'entends tout et son contraire, à la fois ceux qui nous disent qu'on joue le pourrissement et ceux qui nous disent qu'on serait dans la fébrilité. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait annoncé un calendrier de concertation. Je pense que personne n'aurait compris qu'on interrompe prématurément ces concertations. Elles se sont terminées la semaine dernière. Jean-Paul Delevoye présentera avec Agnès Buzyn la synthèse de ces consultations. Et donc, dans la foulée, et je pense que c'est une bonne chose de ne pas attendre davantage, puisque beaucoup de Français attendent aujourd'hui d'avoir des précisions sur la réforme. Dans la foulée, je pense que c'est le bon rythme.
Mais les arbitrages sont rendus, là, maintenant que les consultations sont terminées. Est-ce que le gouvernement sait ce qu'il veut faire et va faire ?
Il le sera mercredi.
Mais vous n'auriez pas pu avancer ça d'une semaine quand même pour éviter tout ce foutoir on savait depuis longtemps que là, qu'il allait y avoir un mouvement qui commençait le 5 décembre. Pourquoi ne pas avoir fait les annonces le 4 ?
Et tout le monde savait depuis longtemps quel était le calendrier des concertations. Donc on peut regretter qu'on ait un mouvement qui se déclenche avant même qu'on ait présenté le contenu de la réforme. Vous savez, on a souvent des mouvements de grève quand on dépose un projet de loi, ou au moins quand on a donné le contenu de la réforme. Donc le gouvernement avait annoncé un calendrier de concertation. Il a fait le choix d'aller jusqu'au bout, et je pense que c'est un bon choix. Et il fait le choix d'annoncer dans la foulée le contenu de la réforme, et je pense aussi que c'est un bon choix.
Vous venez de dire quelque chose d'important. Vous dites que le gouvernement saura mercredi ce qu'il veut faire et va faire, puisque c'est effectivement le jour des annonces du Premier ministre. Est-ce que ça veut dire qu'en fonction de la mobilisation de mardi, vous ajusterez le curseur et les réponses apportées par l'exécutif?
Je vous dis que le gouvernement est en train de préciser le contenu et les modalités de la réforme. C'est le sens des dernières discussions qui sont en cours. C'est pas en fonction d'un baromètre de mobilisation qu'on va changer le contenu de la réforme. On l'a dit, on l'a redit, et je peux vous le redire. On est déterminé à mener à bien cette réforme parce que elle est indispensable, parce que beaucoup de Français aujourd'hui doutent du fait d'avoir une retraite demain. J'imagine que vous avez des jeunes autour de vous qui vous disent qu'ils ne croient pas qu'ils auront une retraite. Donc redonner de la confiance dans un système de retraite, bâtir le système de retraite pour les prochaines décennies, c'est important.
Mais pas anodin pour ceux qui sont allés à manifester. C'est-à-dire, peu importe en fait la mobilisation qu'il y aura dans la rue, vous semblez ne pas vouloir en tenir compte. Vous dites, on a un projet, c'est celui qu'on présentera.
Non, je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'on a souhaité aller au bout de la concertation. C'est ce qu'on a fait. Il y a des propositions des organisations syndicales. Vous savez, tout ça, enfin, ni vous ni moi, on est spécialistes des retraites. Mais je peux vous assurer que ceux qui sont dans ces discussions, il y a beaucoup de sujets, des propositions qui ont été faites par les organisations syndicales. Et donc, c'est à ces questions, à ces propositions que le Premier ministre répondra mercredi.
Mais si vous avez tant concerté, comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à embarquer avec vous la CFDT, qui est quand même un syndicat réformiste, qui, sur le fond, n'est pas du tout hostile à l'idée d'une retraite à points? Comment est-ce qu'on est arrivé dans cette situation aujourd'hui ?
Écoutez, je ne sais pas ce qui vous permet de dire qu'on n'a pas embarqué la CFDT. Je pense que la CFDT soutient...
Le fait d'avoir écouté Laurent Berger, peut-être.
La CFDT soutient la réforme telle qu'elle est proposée. Un système de retraite qui assure la solidarité entre tous les Français et non pas, comme c'était le cas jusqu'à présent, par entreprise, par métier, alors qu'on voit bien que ce système par entreprise, par métier, il atteint ses limites, et un système de retraite par points, je pense que c'est quelque chose auquel la CFDT est très attachée et porte depuis longtemps.
Mais elle ne veut pas
la CFDT n'a pas appelé à la grève et n'a pas appelé aux manifestations.
Mais elle ne veut pas de réforme, de révision paramétrique. Est-ce que vous pouvez assurer aujourd'hui, Laurent Berger, qu'il n'y aura pas d'allongement de la durée de cotisation, que vous avez entendu son message ?
Donc c'est un autre sujet. Je pense qu'on est globalement d'accord avec la CFDT sur les principes de cette réforme qui doit refonder un système de retraite pour les prochaines années. Ensuite, il y a un point qui est aussi important, qui est de dire qu'on met en place un système qui doit être équilibré et équilibré dans la durée. Les Français ne comprendraient pas qu'on leur dise « on vous promet un beau système de retraite et il est déséquilibré ». Évidemment, ça voudrait dire qu'on va devoir rebouger des paramètres, et là, du coup, ça serait une fausse promesse. Donc c'est important de mener cette réforme, et puis évidemment, c'est une question de responsabilité de mettre en place un système qui est équilibré et qui est équilibré
la
durée.
Vous pouvez bouger les paramètres. Est-ce que vous pouvez piocher dans le fonds de réserve des retraites de 36 milliards d'euros à ce jour, un fonds de retraite, je le rappelle, de réserve qui avait été créé par Lionel Jospin pour les temps difficiles? Est-ce que vous allez le faire?
Écoutez, je ne vais pas répondre aujourd'hui et ça ne vous surprendra pas que je ne fasse pas les annonces du Premier ministre mercredi aujourd'hui. Quand le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il y a un déséquilibre, c'est un déséquilibre année après année, et donc c'est pas simplement, vous voyez, un palliatif qu'on pourrait aller trouver. Il faut s'assurer qu'on construit un système qui est équilibré dans la durée.
Donc ça sera une réforme systémique et paramétrique. Guillaume Roquet.
Oui, je reviens au conflit. Vous nous avez dit nous tiendrons bon sur le principe de cette réforme avec l'installation d'une retraite à points. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, dit nous demandons le retrait de cette réforme. On sait la puissance de la CGT dans les transports publics. Alors comment sortons de cette impasse ?
Écoutez, je pense que la CGT, depuis le début, elle n'est pas dans les discussions. Depuis le début, ils ont annoncé qu'ils ne voulaient pas de cette réforme. Je ne sais même pas si c'est un désaccord sur le contenu ou si c'est parce que c'est une réforme qui vient du gouvernement, mais donc de toute façon, ils ne discutent pas. Donc je ne pense pas que ce soit avec la CGT qu'on trouvera le chemin de la sortie de ce conflit.
Bah donc vous excluez la CGT de toute...
Ça n'est pas moi. Tout le monde est toujours le bienvenu à la table des négociations et des discussions, mais quand certains ne veulent pas discuter, j'en prends acte.
Donc il faut installer un rapport de force pour que à la SNCF, à la RATP, la CGT disent bon ben on a perdu, on arrête la grève, parce que ce sera la seule solution.
Vous savez, on est sur une réforme très importante et je ne pense pas que ça se conçoive en termes de rapport de force. Je pense qu'on a amené cette réforme des retraites pour assurer tous les jeunes qui aujourd'hui ne croient pas qu'ils auront une retraite, pour mettre en place un système qui tient compte du fait que le monde a changé depuis 1945, qu'on ne fait plus toute sa carrière au sein d'une entreprise, un système plus juste qui répond aussi à des graves inégalités, le fait par exemple que 20% des femmes doivent travailler jusqu'à 67 ans parce qu'elles n'ont pas le nombre de trimestres voulus. Donc tout ça appelle une réforme des retraites et effectivement on mènera cette réforme, non pas dans une question de rapport de force, mais en trouvant un chemin, parce que quand on parle d'un sujet comme les retraites, c'est un sujet qui peut susciter de l'anxiété. C'est un moment de votre vie où vous vous sentez fragile. Et donc, voilà, il faut évidemment entendre les inquiétudes et rassurer les Français, rassurer aussi chaque catégorie de salariés sur le fait que cette réforme, ça se passera bien et qu'on saura gérer les transitions pour qu'il n'y ait pas de brutalité dans la réforme.
Mais la CGT n'est pas responsable dans la période ?
La CGT ne veut pas discuter, comme elle n'avait pas voulu discuter de la réforme de la SNCF. Moi, j'en prends acte.
Mais pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le sens de l'intérêt général ?
Je ne vais pas me mettre à décerner des primes de sens de l'intérêt général.
Ou alors, est-ce qu'elle est dans une démarche politique ? Oui, c'est ce que vous semblez dire.
Je dis que la CGT, sur les différentes réformes qui sont conduites depuis le début du quinquennat, fait le choix de ne pas discuter. C'est son choix. C'est effectivement sans doute un choix politique, mais il lui appartient.
Sur l'opinion, les Français également, quand on regarde les enquêtes qui ont été réalisées récemment, semblent majoritairement soutenir le mouvement en réalité. Quelles conclusions vous en tirez ? Est-ce que là, il n'y a pas eu un petit souci dans la manière dont vous avez peut-être abordé ce dossier ?
Vous dites que les Français soutiennent le mouvement. Effectivement, ils soutiennent aussi le principe d'une réforme des retraites. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord sur la démarche qui est en cours. Mais ils ont des inquiétudes, et pour répondre aux inquiétudes, il faut préciser les différents paramètres du futur système, et il faut aussi préciser la façon dont on va gérer le passage d'un système à l'autre, et c'est ces éléments qu'il faut donner aux Français pour les rassurer sur la réforme en cours.
Et vous pensez qu'une fois que tout sera connu, les inquiétudes se dissiperont ?
Je pense que c'est plus facile, voyez, de lever des inquiétudes, a fortiori à un moment où beaucoup, tous les opposants à la réforme, peuvent propager des fausses informations. Donc évidemment, tant que vous n'avez pas précisé le contenu de la réforme, on laisse un peu le champ à ceux qui propagent ces fake news. Je pense que quand on aura donné tous les éléments, à la fois sur le système, le nouveau système de retraite et la façon dont on va passer du système actuel au nouveau système, je pense que ça lèvera des inquiétudes.
Un petit regret sur ce calendrier et la manière dont vous avez mené les dernières semaines ?
Écoutez, je vous dis, on entend à la fois tout et son contraire. Vous-même, vous nous reprochiez il y a un an de mener des réformes trop brutalement, de ne pas assez concerter. C'est une réforme très importante sur laquelle le choix qui a été fait, qui me semble le seul choix possible, c'est de prendre du temps pour la concertation. Et maintenant, on nous dit, vous auriez dû annoncer plus tôt, ou peut-être certains nous disent...
Vous pourriez vous dire, finalement, c'est vrai qu'on a peut-être un peu tardé. Mais vous pensez pas que vous avez un peu tardé. Vous auriez pu désamorcer ce qui semble être une crise dont on ne voit pas aujourd'hui l'issue. Vous n'avez pas ce sentiment-là ?
Enfin, je vous dis... Enfin, le choix qui a été fait par les organisations syndicales de lancer le mouvement avant même qu'on ait précisé, qu'on ait été au bout des concertations.
Pourquoi ne vous êtes pas adapté à ce calendrier-là en disant, c'est vrai qu'il y a un mouvement social, on va aller plus vite. Vous le savez depuis deux mois, Elisabeth Borne, qu'il y a ce mur du 5 décembre, comme on le dit dans certains cabinets aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir anticipé ce mur plutôt que de vous le prendre finalement ?
Je pense que si on avait brusqué les concertations, si on avait raccourci les concertations, on nous l'aurait également reproché.
Mais vous dites que la CFDT n'y venait pas et que c'était...
Vous savez, la CFDT est à la table de discussion. associations, la CFTC, l'UNSA, dans les concertations menées par Jean-Paul Delevoye. Donc c'est important de respecter
une
ceux qui veulent discuter de cette réforme.
Une fois que le Premier ministre aura fait des annonces, est-ce qu'on rentre dans un nouveau cycle de concertation et de négociation ou est-ce qu'on rentre dans la mise en œuvre de la réforme telle qu'elle aura été annoncée par le Premier ministre?
Enfin, vous savez qu'il y a un projet de loi qui doit être déposé au début de l'année. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore de l'écriture du projet de loi, des éléments qui vont être affinés. Ensuite, le Premier ministre, il va donner les principes généraux pour tous les Français. Dans des entreprises qui ont des régimes particuliers, il faudra décliner ces principes au sein des entreprises. Donc, les discussions, elles se poursuivront certainement pour tirer dans chaque entreprise les conséquences du cadrage général.
Guillaume Roquette.
Gérard Larcher, le président du Sénat, était à votre place dans ce studio dimanche dernier. Il parlait d'un problème de confiance entre Emmanuel Macron et les Français.
Oui, enfin, je pense qu'il est dans son rôle d'opposant.
Vous ne pensez pas qu'il y a une rupture du lien de confiance entre le président et les Français aujourd'hui, quand vous voyez qu'ils soutiennent massivement le mouvement ?
Les Français soutiennent massivement le principe d'une réforme. Ils expriment certainement des inquiétudes et ils sont en forte attente sur les annonces. Et moi, je vous redis que je pense qu'on pourra répondre à leurs inquiétudes.
Vous ferez cette réforme coûte que coûte, Élisabeth Borne ?
Enfin, je pense qu'on a eu l'occasion de le dire, le président de la République, le Premier ministre. Vous savez, ce n'est pas une lubie, cette réforme. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un caprice de vouloir faire une réforme des retraites. Je vous redis que beaucoup de jeunes ne croient pas qu'ils auront une retraite, que le système actuel laisse dans des difficultés très importantes beaucoup de Français avec des toutes petites retraites. Je pense aux agriculteurs, je pense aux artisans, je pense à toutes les femmes qui ont eu des carrières courtes, qui doivent travailler jusqu'à 67 ans parce qu'elles n'ont pas suffisamment de trimestres. Donc oui, je pense que c'est important
c'est
de faire... Une réforme
qui
permet de préparer les prochaines décennies en tenant compte des évolutions avec un système juste.
La CFDT qui est plutôt d'habitude dans la conciliation, qui est un syndicat qui cherche l'accord. Quand vous entendez aussi Xavier Bertrand, qui n'était pas si hostile que ça au président de la République, dire aujourd'hui, encore tout à l'heure, personne ne fait plus confiance au président. Quand vous entendez aussi Gérard Larcher qui dit, Guillaume Roquette le rappelait, il n'y a plus de confiance, ça ne vous interpelle pas. Vous ne dites pas
Laurent Berger,
vous ne pètes pas sur la bonne voie.
Laurent Berger n'a jamais demandé de ne pas mettre en œuvre la réforme avec un système universel par points qui est porté depuis des années par la CFDT. S'agissant de Xavier Bertrand, j'ai lu son interview, je dois dire que je trouve que c'est assez obscur parce que quelque part, on a l'impression que pour lui, le réformisme, ça veut dire de la brutalité, ce qui est à peu près le contraire de ce qu'il nous disait il y a un an.
Et Ségolène Royal, dont vous avez été la principale collaboratrice, et qui dit « c'est un projet embrouillé, provocateur et injuste ».
Bon, ben on va donner de la clarté, et je peux vous assurer que c'est un projet qui donne beaucoup plus de justice, et qui permettra en plus à chaque Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de savoir au fur et à mesure quelle sera sa retraite. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui ont des métiers différents successivement. Ben, je peux vous assurer aujourd'hui que quand, par exemple, vous avez démarré dans le privé, continué dans une entreprise publique et puis qu'éventuellement vous vous installez en libéral, si vous pouvez me dire combien vous allez gagner au moment de votre retraite, bravo. Je pense que beaucoup de Français ne le savent pas et que c'est au contraire un système qui donnera beaucoup de clarté et plus
de
justice.
Vous allez donner de la clarté, ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça jusque-là, si on vous entend bien,
dans
de la part du gouvernement.
Par rapport au système actuel.
Oui, mais vous dites aussi plus de clarté. Alors vous avez aussi dans vos fonctions les transports et donc la sécurité routière. C'est l'objet de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Madame la ministre, Claude Rambaud, vice-président de France Asso Santé. L'alcool tue 42 000 personnes par an, 1000 morts sur la route, des accidents du travail, coût social 100 milliards d'euros. De nombreux pays, en janvier, font une campagne pour une pause avec l'alcool, avec de très bons résultats partout où elle était mise en place. En France, cette campagne sera portée devant le grand public par des associations. Madame la ministre, à titre personnel, êtes-vous favorable à cette campagne? Et si oui, pourquoi le gouvernement ne nous aide pas?
Élisabeth Borne.
Alors, ça n'est pas tout à fait dans le champ de mon ministère, mais évidemment, moi, je peux être que favorable à une campagne qui met en garde contre les méfaits de l'abus d'alcool, contre l'alcool.
Mais pourquoi ne pas l'avoir soutenu?
Enfin, c'est pas mon ministère.
Non, au niveau du gouvernement,
le président de la République a dit que l'État ne s'associerait pas à ce mois sans alcool en janvier.
Je ne sais pas exactement quel est le contenu de la campagne. Et un mois sans alcool, bon, je pense qu'entre ne pas abuser d'alcool et ne pas boire du tout d'alcool, peut-être qu'il y a un juste chemin.
C'est l'heure de la pause et on se retrouve dans quelques minutes pour le grand jury d'Elisabeth Borne. Et on évoquera bien évidemment l'écologie, la COP25. Et on reviendra aussi certainement sur les retraites. À tout de suite.
RT. RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Jeun de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie.
À propos du cyclone Belna qui va toucher Mayotte dans les prochaines heures, des vents à 160 km à l'heure sont attendus. Est-ce que les services de l'État ont pris des mesures particulières pour préparer la population face à ce désastre potentiel qui s'annonce?
Enfin, moi, je suis très attentivement à l'évolution de ce cyclone. On pensait qu'il se passerait plus loin de Mayotte. Manifestement, sa trajectoire l'a ramené davantage sur Mayotte. On est en vigilance rouge, donc ça veut dire que effectivement les services de l'État sont mobilisés et ont appelé la population à se mettre à l'abri pendant le passage de ce cyclone.
Est-ce que des mesures vont être... Est-ce que vous pensez que ça peut durer? Est-ce que vous avez une idée des dégâts qui pourraient être occasionnés?
Non, enfin, le cyclone, il n'est pas encore passé sur Mayotte. J'espère qu'il passera le plus loin possible et qu'il y aura le moins de dégâts possible. Mais en tout cas, pour protéger les populations, on est dans une zone qui a malheureusement l'habitude, ou en tout cas qui a déjà connu des épisodes cycloniques. Et donc, il y a des dispositions qui sont prévues pour que la population se mette à l'abri.
Et il y aura les moyens pour faire face si jamais l'île est effectivement frappée en termes de secours?
Bien sûr, il y aura les moyens nécessaires. Et puis, par ailleurs, vous savez qu'on a des dispositifs sur les catastrophes naturelles pour accompagner la reconstruction aussi, être présent au moment de la crise et puis aussi accompagner les populations pour la reconstruction.
Tout cela, on peut le dire, est aussi lié au dérèglement climatique. On y viendra. Mais tout d'abord, une question de Guillaume Roquette sur François Bayrou.
François Bayrou, le président du Modem, a été mis en examen vendredi pour complicité de détournement de fonds publics. Il a été votre collègue au gouvernement, il est chargé notamment de la moralisation de la vie publique. Et le président de la République demande aujourd'hui au gouvernement de le soutenir. Alors c'est ce que vous faites?
Écoutez, on a une procédure judiciaire qui était en cours, une enquête qui était en cours. Il y a aujourd'hui une mise en examen. Mise en examen, c'est aussi pour permettre à celui qui est mis en examen de se défendre. Et aujourd'hui, moi, je veux redire toute mon amitié à François Bayrou. Voilà.
Est-ce que c'est pas gênant, c'est vrai, d'avoir un ministre, un ancien ministre qui aujourd'hui est mis en examen, qui s'est fait le chantre de la moralisation de la vie publique mis en examen?
Enfin, on ne va pas faire le procès avant le résultat des enquêtes en cours. Voilà, donc maintenant, on a une mise en examen. Moi, je ne vais pas commenter les procédures judiciaires.
Tout le monde est mis en examen aujourd'hui, dit François Bayrou. Cette phrase a pu interpeller, est-ce que vous aussi?
Dans
la classe politique, tout à fait.
Je pense qu'il faut surtout garder en tête que mis en examen, ça veut dire qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours et ça ne veut pas dire autre chose.
Alors, vous êtes ministre également en charge des transports, je le disais. Une question sur les routiers, Adrien Gindre.
Avec ces opérations qui ont été menées hier pour protester contre la hausse de la fiscalité sur le gazole, ils demandent bien évidemment un retour en arrière de la part du gouvernement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce qui est envisageable?
Il y a une organisation professionnelle qui a lancé ces opérations escargots ou ces blocages. Moi, je leur rappelle qu'effectivement, on a annoncé, j'ai annoncé en juillet, qu'on souhaitait mettre à contribution le transport routier et le transport aérien pour financer la mobilité de tous les jours, une mobilité plus propre. Et donc, je pense que c'est légitime. Ça n'a pas été une surprise pour les organisations professionnelles. On avait eu des longues discussions sur la nécessité que le transport routier qui utilise les routes puisse participer davantage à leur entretien.
Ils disent qu'il faudrait faire payer les camions étrangers plutôt qui, eux, se permettent de traverser le territoire entier sans parfois ne jamais faire le plein sur notre territoire et donc ne payer aucune taxe en réalité.
C'est une réflexion qu'on peut poursuivre avec les organisations professionnelles. On avait eu des échanges sur ce sujet. Moi, ça ne me satisfait pas, effectivement, que des poids lourds fassent le plein en Belgique ou en Luxembourg, traversent notre pays, utilisent nos infrastructures, refassent le plein en Espagne. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut continuer à travailler avec les organisations professionnelles. Dans l'immédiat, ça n'a pas été une surprise. On a réduit de 2 centimes l'avantage fiscal. C'est le sens aussi de l'histoire, de demander aux transports, alors routiers en l'occurrence, de participer à l'énorme effort d'amélioration, de meilleur entretien de nos réseaux que nous faisons. Et je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir des voies ferrées en bon état, d'avoir des routes en bon état, d'avoir des ponts
vous,
en bon état.
Vous ne reviendrez pas sur cette hausse.
Donc je pense que cette hausse est légitime.
Mais on a un moyen de contraindre les transporteurs européens qui traversent notre territoire?
On avait discuté de dispositifs pour faire participer les transporteurs étrangers qui ne font pas le plein en France. On ne va pas ouvrir la discussion, mais si les organisations professionnelles sont disponibles, ben écoutez, on reprendra ces
discussions. Mais vous insistiez sur le fait que c'était une organisation hier, elle n'est pas représentative à vos yeux de la profession ?
S'il y a une organisation, il y a plusieurs organisations représentatives et une qui a appelé à ces mouvements de blocage.
Et vous ne craignez un blocage des raffineries ?
Alors c'est autre chose, a priori les routiers...
Par les routiers.
Non, enfin moi je les appelle à la responsabilité, notamment cette organisation professionnelle. Je pense que
OTR,
je pense que on a une faible diminution du remboursement dont ils bénéficient. Moi je voudrais rappeler que les Français ne comprennent pas nécessairement pourquoi ils payent de la fiscalité sur leur carburant. Pendant que, par exemple, les avions n'en payent pas. Et donc, c'est le sens des mesures qui avaient été annoncées en juillet, que j'avais annoncées en juillet, sur une réduction de 2 centimes de la niche pour les transporteurs routiers et la mise en place d'une éco-contribution sur les billets d'avion. Parce que je pense que c'est normal que ces modes de transport participent au financement des transports du quotidien de tous les Français.
Puisqu'on parle de route,
voilà, 90 km. Vous ne reviendriez pas sur cette hausse de 2 centimes sur le gazole routier. En revanche... le Premier ministre a annoncé qu'il était possible de revenir sur la limitation à 80 km/h sur pour les véhicules sur le réseau secondaire. Où en est-on de cette mesure ? Est-ce qu'il y a des départements où déjà on est revenu à 90 km/h ?
Donc ça supposait une disposition législative qui a été votée dans la loi mobilité, qui sera promulguée prochainement. Mmh. Elle aurait pu être promulguée plus tôt, mais les sénateurs ont fait le choix de ne pas trouver d'accord en commission mixte paritaire cet été. Donc du coup, elle sera promulguée prochainement. Et dès qu'elle entrera en vigueur, les départements qui le veulent pourront effectivement relever la vitesse sur certains tronçons avec une étude d'accidentologie, évidemment, et un avis de la commission départementale de sécurité.
Prochainement, c'est quelques semaines, quelques mois.
La loi, elle a été votée, elle est au Conseil constitutionnel. Dès qu'elle en sortira, elle sera promulguée et elle est d'effet immédiat. Donc les départements pourront mettre en œuvre ces relèvements de vitesse après avis des commissions départementales de sécurité.
Alors, on va entrer dans des cas concrets d'écologie. Et tout d'abord sur l'usine Lubrizol, Elisabeth Borne. Est-ce que vous êtes favorable à une réouverture de l'usine Lubrizol ?
Moi, je pense qu'il faut prendre, toutes les précautions. Qu'il n'est pas question de reconstruire les entrepôts qui ont brûlé. Et ces décisions, elles se prennent localement. Il y a des commissions qui doivent donner un avis. Aujourd'hui, on a une demande sur une réouverture très partielle. Évidemment, on sera attentif à l'avis de la commission. Et puis, vous savez qu'on avait mis en place un comité de dialogue pour associer toutes les parties prenantes, les élus, les syndicats, les associations de protection de l'environnement. Et moi, je souhaite que, si on doit avoir une réouverture, une partie du site, elle puisse également être débattue dans cette commission.
Alors, parce que la réponse devrait être donnée rapidement. À quelle échéance on saura s'il y a réouverture ou pas ?
Pour l'instant, il y a uniquement une demande de réouverture.
Et il y a un avis favorable qui a été remis au préfet d'un organisme qui est reconnu par l'État. Et le préfet doit donner sa réponse.
Et donc, je vous dis qu'il y a une commission qui s'appelle un CODERST, qui se réunit la semaine prochaine et qui doit y avoir ce comité de dialogue et de concertation qui se tient avec tous les acteurs pour décider si, oui ou non, on peut faire cette réouverture partielle. C'est un incendie qui a suscité beaucoup d'émotions. Je pense que c'est important que toutes les décisions se prennent avec la plus grande transparence.
Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez une position ? Est-ce que vous dites qu'il faut mettre dans le principe de précaution ? Ou est-ce que vous dites il y va aussi de l'activité économique ?
Enfin, moi, je ne vais pas donner un avis, c'est pas moi qui inscris le dossier.
Vous êtes un ministre de l'écologie.
À quoi je suis très attentive, c'est qu'on ne revienne pas on ne remette pas des stockages de produits finis comme il y en avait sur le site, qui ont du coup créé toute cette fumée noire qui a beaucoup choqué la population, et qu'on ne rouvre cette usine que si toutes les conditions de sécurité sont bien assurées, et ce sont les commissions locales qui en décideront.
Alors, Adrien Jeanne, sur le nucléaire.
Vous aviez, il y a quelque temps, évoqué l'hypothèse d'un scénario de 100% renouvelable pour l'avenir énergétique de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les acteurs de l'énergie française, je pense en particulier à EDF, sont à la hauteur, sont au rendez-vous pour se préparer à cet éventuel scénario ?
Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'on a une feuille de route qui est claire, qui prévoit de ramener la part du nucléaire à 50% dans notre mix énergétique en 2035 et donc de développer les énergies renouvelables qui devront représenter 40% de notre électricité en 2030. La question qui est posée, c'est au-delà. Et évidemment, on doit non seulement réfléchir pour 2035, mais au-delà. Dans ce cadre-là, ce n'est pas une lubie qui me serait venue tout d'un coup. La programmation pluriannuelle de l'énergie dit qu'on va travailler sur plusieurs scénarios. Un scénario dans lequel on construirait des nouveaux réacteurs nucléaires et puis un scénario 100% renouvelable. Et je pense que ce scénario, il faut l'étudier jusqu'au bout. Vous savez, je reçois depuis que j'ai dit ça un certain nombre de courriers de camarades polytechniciens qui me disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as perdu la tête ? Comment ça ? 100% renouvelable ?» Non, je pense que c'est une démarche scientifique et rigoureuse de regarder tous les scénarios, y compris un scénario 100% renouvelable.
Donc, comme Nicolas Hulot le disait en son temps, vous aussi, vous êtes victime des lobbies, vous recevez des pressions.
Mais vous voyez, voilà, je le prends avec beaucoup de sérénité et je considère que la bonne démarche, c'est d'étudier tous les scénarios.
Et le président d'EDF vous entend ? Quand vous lui dites ça,
le président d'EDF sait que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a ce scénario. Évidemment, il lui appartient de réfléchir à ce que serait la stratégie d'EDF dans un tel scénario.
Guillaume Roquet.
Alors le président d'EDF, il a bien des soucis avec la construction de l'EPR de Flamanville, cette centrale de nouvelle génération. Les délais explosent, le coût aussi. On attendait un rapport pour savoir ce qui se passait ou ce qui ne se passait pas. Au mois de novembre, on est le 8 décembre, il n'y a toujours rien.
Alors effectivement, je pense que personne ne peut trouver normal que les coûts aient été multipliés par plus de 3 sur la construction de cette EPR et les délais aussi. Donc c'était le sens du rapport qu'avec Bruno Le Maire nous avions demandé. Le rapport, il a été remis en octobre. Je pense que EDF présentera des réponses d'abord à son conseil d'administration et je pense que c'est normal que ça passe d'abord par le conseil d'administration et donc dans les prochains jours, je pense qu'on aura le retour d'EDF sur les propositions qui leur ont été demandées.
Alors, autre réponse attendue du gouvernement, elle concerne les petites lignes SNCF. Et c'est vrai qu'on ne cesse d'avoir un report du calendrier. Jean-Baptiste Djebbari, votre secrétaire d'État au transport, était notre invité il y a quelques semaines. Et il nous annonçait donc qu'il y aurait une décision qu'il serait prise sur l'avenir des petites lignes fin novembre, début décembre. Nous y sommes. Est-ce qu'il y a des petites lignes qui seront fermées en France ?
Alors, il vous a pas échappé que l'actualité est un peu chargée.
Alors, mais il faut mieux pas mettre de vie sur le feu, Elisabeth
Borne. On essaye d'avancer également sur ces scénarios. Enfin, je pense que, vous avez
ça
en
tête. Ça
fait
des semaines que la question est sur la table et qu'elle elle concerne aussi les Français et leur mode de déplacement.
On ne fait pas rien sur ces petites lignes, vous savez. Et pendant des années, si on a une situation aussi difficile, c'est que pendant des décennies, on a totalement sous-entretenu ces petites lignes, on s'en est fortement désintéressé, effectivement, sans doute, en ayant en tête qu'elles devraient fermer. Ça n'est pas la position du gouvernement. Moi, je pense que ces lignes qui assurent une desserte fine dans nos territoires sont très importantes. Elles ont un vrai rôle. Le travail qui est mené, effectivement, et qui ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est regarder au cas par cas quelles sont les bonnes réponses qui peuvent être apportées. Ça peut être une remise en état à l'identique. Ça peut être de prévoir des trains plus légers. Et donc, c'est tout ce travail qui est en cours. Et en attendant, l'État assume les engagements qu'il a pris dans les contrats de plan, en particulier sur ces petites lignes. Vous savez, par exemple, moi j'avais pu lancer les travaux pour la réouverture de la ligne Épinal-Saint-Dié. Encore la semaine dernière, on a pu annoncer les travaux sur la ligne Grenoble-Vennes. Donc je peux vous assurer que ces sujets des dessertes ferroviaires fines des territoires, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc voilà, le travail est en cours.
Bon, mais on saura quand ? Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on connaîtra l'avenir des petites lignes ? Et c'est vrai qu'il y a un rapport qui a été demandé à un préfet et il a donné son rapport. Et depuis, écoutez, on ne sait pas. En fait, est-ce qu'il y aura une date ?
Le point, ce n'est pas simplement d'avoir un constat. Le constat, on sait qu'il n'est pas réjouissant, puisque pendant des années, on a sous-entretenu ces petites lignes. Ce qu'on souhaite faire, ce n'est pas présenter simplement un constat qui pourrait être un peu triste, c'est présenter des solutions. Et je pense que c'est mieux de prendre le temps de construire les solutions.
C'est l'heure de Questions Express.
Le grand jury, Questions Express.
Elisabeth Borne, pour ou contre l'extension de l'aéroport de Roissy d'ici 2037 ?
C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a effectivement un projet d'un nouveau terminal à Roissy. Moi, je suis très vigilante sur la façon dont ce projet peut être mené. il faut évidemment être très attentif aux nuisances que ça peut causer pour les riverains. Et donc, ils auront l'occasion de s'exprimer puisqu'il y aura une enquête publique qui se déroulera l'an prochain.
Mais est-ce que c'est écolo, au moment où vous-même vous taxez les billets d'avion, d'envisager un agrandissement d'un aéroport ?
Enfin, je pense qu'on peut privilégier des modes alternatifs à l'avion quand c'est possible, hein, notamment sur des dessertes TGV. Il y a un certain nombre de villes en France qui n'ont pas le choix. Et puis, on a des liaisons internationales sur lesquelles on n'a pas le choix. Il ne faut évidemment pas envisager une croissance débridée du trafic aérien. Et donc, c'est dans ce contexte-là que ce projet sera soumis à enquête publique l'an prochain.
Vous allez recevoir vous-même les associations qui sont hostiles à ce projet ?
Alors, il y a différents modes d'hostilité. Les riverains qui expriment des préoccupations, notamment sur les nuisances sonores, moi, évidemment, je les recevrai. Vous savez qu'on a déjà accéléré, augmenté les sommes réservées pour permettre des travaux d'insonorisation. Et donc, c'est un sujet auquel je suis très attentive.
Pour ou contre, Elisabeth Borne, l'interdiction des SUV dans les centres-villes, ces voitures d'une capacité importante et consommatrice d'essence.
Alors, on est face à un paradoxe, vous savez. Pour autant, contre l'interdiction, c'est pas moi qui en décide. Contre le fait que les gens achètent des voitures, ou qu'en tout cas, on ait des publicités qui vous convainquent que le mieux, c'est d'acheter un SUV, y compris pour vous déplacer en ville, je trouve pas ça formidable.
Il faut mieux. Alors, est-ce qu'on peut interdire ces publicités ? Non.
On ne peut pas interdire les publicités.
Mais
moi, je pense que c'est important d'alerter les constructeurs sur le fait qu'au moment où on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de proposer des véhicules toujours plus lourds qui émettent plus de CO2, ça n'est pas une bonne idée.
Pour ou contre, Elisabeth Borne, la gratuité des transports publics dans les villes ?
Alors, sur ce point-là, les réponses, elles sont très différentes selon le type de ville. Vous voyez, à Dunkerque, le maire de Dunkerque a fait cette expérimentation de transport gratuit. C'est une ville dans laquelle il n'y avait quasiment pas de transport en commun et ça a été un succès. Dans des grandes villes où on n'a clairement pas des problèmes de fréquentation dans les transports en commun et où les voyageurs payent une part du coût, ça voudrait dire reporter cette absence de recettes sur les contribuables, et ça ne me semble pas forcément une bonne idée.
Alors, puisqu'on parle d'écologie,
il faut par contre avoir des tarifications sociales pour évidemment éviter que quelqu'un ne puisse pas prendre des transports en commun faute de ressources financières.
Alors, puisqu'on parle d'écologie, une question sur Greta Thunberg, Guillaume Roquette.
Oui, Greta Thunberg, l'égérie des écologistes, cette jeune femme a fait des déclarations assez surprenantes en disant que le réchauffement climatique, c'était une conséquence d'un système colonialiste, du patriarcat, comme s'il y avait beaucoup d'idéologie dans cette écologie-là. Ça vous choque ?
Écoutez, moi, ce qui m'importe, c'est l'angoisse que porte Greta Thunberg et l'inquiétude. Et
vous les avez vues, ces déclarations ?
J'ai vu ces déclarations. Je vous dis, ce qui me semble important, c'est le fait qu'elle porte les préoccupations de toute une partie de notre jeunesse qui trouve qu'il faut en faire plus pour lutter contre le dérèglement climatique. Et là,
mais
moi,
je partage excessive pour prolonger ce que disait.
Enfin, moi, je ne vais pas commenter chacune des déclarations de Greta Thunberg. Je dis que de façon générale, je pense que cette expression qui est celle de beaucoup de nos jeunes, de dire vous êtes responsables, et ils peuvent aussi nous prendre un peu à partie, si je peux dire, vous êtes responsable de la planète qu'on aura demain. Je pense que c'est important d'avoir ces alertes, de les écouter
temps,
et d'en faire davantage.
Parce que son propos devient politique. Hein, si c'est aussi une crise des droits de l'homme, de la justice et de la volonté politique, des systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux l'ont créé et alimenté.
Voilà, donc moi, on va rester sur le combat pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et ce combat-là, je le partage.
D'accord, peut-être pas tout alors. C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Elisabeth Borne. Alors par rapport à la grève, vous avez annoncé en début d'émission que demain, en Ile-de-France, les voies réservées aux transports en commun et aux taxis seront ouvertes au covoiturage. Et un internaute vous répond, alors sous le pseudo La France, il écrit, il vous reproche surtout d'annoncer cela la veille de la mise en place de cette mesure. Personne ne sera au courant et il prédit même un bide en perspective. Pourquoi attendre la veille pour annoncer cette mesure qui peut aider les Français ?
Je ne suis pas inquiète sur le fait que des automobilistes pourront bénéficier de cette avancée sur l'ouverture des voies réservées. Je le disais, il y a 75% de gens en plus qui font du covoiturage. Je rappelais qu'on a une incitation financière de 3 euros pour chaque conducteur qui accepte de transporter un passager. Donc je suis certaine que beaucoup de gens en covoiturage pourront bénéficier de cette nouvelle possibilité.
Et donc il faudra écouter à l'avenir le grand jury pour être aussi bien informé. Marie-Pierre Haddad.
Oui, sur Twitter, Valentin, il vous pose une question. Il veut savoir pourquoi devoir toujours attendre 1 an, 2 ans ou 5 ans pour qu'une loi sur l'écologie soit appliquée. Et il prend le cas très concret de la consigne pour les bouteilles en plastique où elle ne sera mise en place qu'avant 2023.
Alors,
pourquoi
vous savez,
attendre autant de temps ? Est-ce que vous avez cédé à la pression des élus ou est-ce qu'au contraire, c'est le lobby du plastique ?
Je pense que, enfin, moi, ma première préoccupation, c'est qu'il y ait moins de plastique à usage unique et en particulier, moins de bouteilles en plastique à usage unique. Ensuite, on est sur un sujet qui est de la compétence des élus, des maires, des intercommunalités, et on avait une forme d'opposition entre les industriels qui disaient on veut mettre en place la consigne tout de suite et les maires qui disaient mais attendez, on a lancé de nombreuses démarches.
Mais
mon objectif, objectif, il est simple, il est qu'on atteigne 77% de collecte et de recyclage en 2025, 90% en 2029, qu'on baisse les plastiques à usage unique et qu'on arrête d'avoir 200 millions de bouteilles chaque année qui partent dans la nature.
Mais vous avez dû revoir vos ambitions à la baisse sur ce sujet.
On travaille avec des collectivités et on trouve le bon équilibre entre les collectivités et les industriels.
Écologie toujours.
Oui, cette fois-ci, ça concerne Donald Trump, donc qui est connu pour ses propos polémiques sur le réchauffement climatique. Il a visiblement un nouveau combat, celui de lutter contre les mécanismes qui visent à économiser l'eau dans les toilettes. Écoutez-le.
Nous regardons de très près les lavabos, les douches et d'autres éléments de la salle de bain. Parfois, il y a si peu d'eau qui sort du robinet que vous ne pouvez presque pas vous laver les mains. Et puis, les gens doivent tirer la chasse d'eau 10 fois, 15 fois, au lieu d'une fois, et ils finissent par utiliser plus d'eau.
Alors, les internautes ont été affligés par les préoccupations de Donald Trump. Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça affligeant comme commentaire ?
Alors, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il est totalement isolé. Vous voyez, j'étais vendredi à une réunion des ministres de l'énergie à l'Agence internationale de l'énergie. Seuls les États-Unis portent ces positions un peu surprenantes. Et je serai à la COP25 à Madrid lundi et mardi. Et ce qu'on peut constater, c'est que quand les États-Unis ont quitté l'accord de Paris, certains, et notamment Donald Trump, prévoyaient la fin de l'accord de Paris, ben on pourra constater à Madrid que tous les pays sont à bord et que ce sont les États-Unis qui sont à contresens de l'histoire.
Et le président Donald Trump, vous trouvez que ce genre de propos, vous trouvez ça digne d'un président américain ou vous dites que c'est une considération aussi du quotidien ?
Enfin, je pense qu'il est mal informé, on va dire, sur l'intérêt. Peut-être qu'il ne sait pas qu'on a des problèmes de ressources en eau et que c'est bien d'économiser l'eau.
Marie-Pierre Haddad.
Oui, cette fois-ci sur la grève du 5 décembre, il y a une image qui a surtout beaucoup marqué les internautes. C'est une vidéo sur Twitter où on voit des policiers en train de tabasser un manifestant à terre. Et donc cette vidéo a été vue 600 000 fois en quelques jours. Et les internautes ont repris les propos d'une députée La République En Marche, Laetitia Avia, qui dit « Apportez-moi, dit-elle, une violence constatée et je serai la première à la condamner. » Elle parle des violences policières. Est-ce que ces propos sont déplacés d'après vous ?
Non, je pense que malheureusement, en marge de manifestations qui ont été pacifistes, on a presque systématiquement des individus violents qui s'en prennent au commerce, qui s'en prennent aux policiers, et tout ça crée un climat de tension. Évidemment, ça ne justifie pas qu'il puisse y avoir ce que vous évoquez, des violences policières. Moi, je n'ai pas les éléments.
La police des polices a été saisie, mais ce genre de propos de Laetitia Avia,
il y a systématiquement une inspection qui est menée. Et la justice aura à se prononcer le cas échéant. Mais en tout cas, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'il y a beaucoup de violence dans la manifestation, d'abord du côté des Black Blocs et de ces individus très violents qui se glissent dans les manifestations.
En 15 secondes, parce qu'il y a une petite question de Guillaume Roquette avant la fin de cette émission.
Dans quelques mois, ce sont les élections municipales. Serez-vous candidate à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine ?
J'ai eu l'occasion de dire que le mandat municipal m'intéresse, parce que je pense que l'écologie, c'est pas que des dossiers, c'est aussi...
Donc il y a plutôt oui.
Mais ça ne vous surprendra pas que ce ne soit pas ma principale préoccupation du moment. Donc je reviendrai vous voir pour en parler si vous voulez.
Mais vous êtes partante.
Je vous redis, ce n'est pas ce à quoi je me suis occupée en ce moment.
Merci Elisabeth Borne, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.